en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Cette émission en habit vert est un hommage à Henri Amouroux. Si l'histoire avec un grand H ne s'arrête jamais, celle personnelle d'Henri Amouroux, qui avait commencé le 1er juillet 1920 à Périgueux, s'est arrêtée le 5 août 2007. En plein mois d'août, les amis d'Henri Amouroux à Paris étaient peu nombreux, mais la cérémonie d'adieu fut néanmoins très touchante. Elle eut lieu dans l'église Saint-Jacques-du-Haut-Pas, tout près de chez lui. Je vous propose d'écouter tout d'abord le compte-rendu qu'en donnèrent dans le Figaro les journalistes qui y ont assisté.
Ce fut une cérémonie très belle, très digne, très lumineuse. Et dans la grande nef au mur nu, des paroles de haute spiritualité s'élevèrent, accordées à ce que fut la vie et l'œuvre de ce grand journaliste et de cet historien lucide et scrupuleux qui n'eut jamais peur de la vérité. Beaucoup de fleurs, et sur un coussin, la seule médaille qu'il ait jamais acceptée, la croix de guerre. Et puis les signes de son appartenance à l'Institut, son épée, son bicorne. Sa famille, ses proches, ses amis, de nombreux journalistes et de toutes les générations, car Henri Amouroux, homme de fidélité, croyait très fort en la jeunesse. Cette fidélité s'exprima d'ailleurs avec une force rare par la voix du grand rabbin Alain Goldman, dont la présence exceptionnelle marquait l'ouverture de cœur et la passion pour l'autre d'Henri Amouroux. Amis depuis les années 50, ils ont entretenu un fertile dialogue. Avant lui, Jean Cluzel avait rendu hommage à l'infatigable membre de l'Académie des sciences morales et politiques, dont il fut secrétaire perpétuel. Et plus tard, c'est Josette Alia, présidente du jury Albert Londres, qui prit la parole pour lire la superbe préface de Terre d'Ébène, riche de cette injonction « Portez la plume dans la plaie », ce que fit toujours Henri Amouroux.
Henri Amouroux présidait plusieurs jurys littéraires, notamment le jury du prix Louis Powels depuis 10 ans. Je rappellerai simplement que c'est Louis Powels qui lui avait demandé de participer aux réunions rédactionnelles du Figaro Magazine et qu'Henri Amouroux, chaque semaine, y apportait son dynamisme, ses idées, nombreuses, fourmillantes, et son avis toujours précieux. Ces réunions, il les adorait, elles le rendaient heureux. C'est ainsi qu'il a proposé un jour de passer lui-même 27 heures dans le service des urgences d'un grand hôpital de Paris pour mieux comprendre la vie des médecins et des malades. Il était également, vous le savez, le président du jury du prix Albert Londres, un prix destiné aux journalistes de reportage, dont il avait réussi à faire le prix le plus prestigieux de cette profession. Je vous propose d'écouter la lecture du texte d'Adrien Jaulme, grand reporter au Figaro, lauréat du prix Albert Londres en 2002.
Le journaliste est un historien qui n'aime pas attendre. Henri Amouroux, qui présida à la remise de 21 prix Albert Londres, la plus ancienne et la plus prestigieuse récompense du journalisme français, portait autant d'intérêt à l'histoire immédiate qu'à un passé plus lointain. Élu président du jury Albert Londres en 1984, Amouroux s'était consacré avec passion à son rôle, contribuant à moderniser un prix fondé dans les années 30, tout en veillant à ce qu'il demeure celui du reportage, de la chose vue et relatée avec talent. C'est lui qui décide en 1985, avec Henri de Turenne, l'élargissement du prix Albert Londres au reportage audiovisuel, attribué pour sa première édition à Christophe de Pomphy. Et il ne cesse, dans les débats du jury, de défendre les candidatures de reporters débutants ou inconnus, mais dont il apprécie le style et l'originalité. « Racontez-nous !» répétait sans cesse Amouroux. Devenu en 2006 président d'honneur du jury, laissant sa succession à Josette Alia, Henri Amouroux n'avait cessé de se passionner pour le prix Albert Londres. Il avait obtenu de la Poste au début de cette année le lancement d'un nouveau timbre commémoratif dédié au célèbre reporter et avait fait le voyage jusqu'à Beyrouth pour la remise du prix 2007 au printemps dernier.
Après ces deux témoignages, je voudrais vous rappeler les principales étapes de la carrière d'Henri Amouroux. Il était diplômé de l'École supérieure de journalisme et il avait commencé sa carrière journalistique fin 1938 à l'agence de presse Opera Mundi à Paris, puis comme stagiaire au journal La Petite Gironde à Bordeaux. Pendant la résistance, il avait participé au groupe de résistance Jade Amicol. À la Libération, il appartient à l'équipe fondatrice du journal Sud-Ouest et il occupera de 1944 à 1974 les postes successifs de secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, directeur général adjoint, directeur général de Sud-Ouest. Il crée et dirige parallèlement Sud-Ouest Dimanche. Durant 14 ans, il a tenu la chronique littéraire, a été correspondant de guerre à 5 reprises, notamment sur le front français puis au Vietnam, ce qui lui vaudra 2 blessures. Il a effectué de très nombreux reportages, dont 10 en Israël, qui donneront matière à 4 ouvrages, 7 en Yougoslavie, 5 en Algérie, 4 au Vietnam, 2 en URSS, ainsi qu'en Inde, en Égypte, en Jordanie, en Chine, au Canada, au Brésil. À partir de 1974, Henri Amouroux quitte Sud-Ouest et est nommé directeur de France Soir, puis co-directeur du quotidien Rhône-Alpes. Depuis 1985, il préside le prix Albert Londres et à côté de son activité professionnelle, Henri Amouroux a consacré sa vie à l'écriture d'une monumentale histoire des Français sous l'occupation. Si vous connaissez tous l'œuvre historique d'Henri Amouroux, les 10 volumes de sa grande histoire des Français sous l'occupation, rédigés entre 1976 et 1993, ses autres ouvrages relatifs à cette période historique sont aussi nombreux, pour en finir avec Vichy, par exemple. Mais vous connaissez peut-être moins Henri Amouroux comme romancier et comme homme de théâtre. Et ce sont ces deux aspects de son talent que nous vous proposons de découvrir maintenant. Le romancier, tout d'abord. Après être rentré de plusieurs reportages où il avait couvert, comme on dit, la guerre israélo-égyptienne, Henri Amouroux a publié « La fille de Tel Aviv », c'était en 1957. L'histoire est simple, un garçon et une fille s'aiment dans l'Israël admirable et irritant des pionniers et des adolescents orgueilleux, des arbres qui ont 5 ans, des frontières trop étroites. Mais entre Jacques, qui n'est pas juif et qui vient de France, et Hora, l'israélienne, la guerre se glisse, qui entraînera la fille de Tel Aviv jusqu'aux rives de Charm el-Cheikh, plus loin, encore plus loin, à la recherche d'une patrie que les difficultés de la vie quotidienne lui avaient fait oublier. Écoutez un passage de ce roman.
Déjà, ce n'était plus le même désert. Les camions roulaient en s'enveloppant maintenant de flots de poussière. Résignés, les hommes respiraient, mangeaient et buvaient le sable noir que les roues des camions soulevaient en nuages épais. Ils s'efforçaient de protéger seulement leurs yeux irrités. Ils fermaient les paupières, ne passaient plus la main dans leurs cheveux poisseux ni sur leur visage envahi de barbe. Ils sentaient la poussière se déposer sur eux, prendre le moule exact de leur visage, s'infiltrer dans leurs vêtements, souiller leur dernière cigarette. Et ils identifiaient l'Égypte à la poussière. Voilà, c'était cela, l'Égypte, cette poussière grasse et gluante dont ils rêvaient de se débarrasser par des sacrifices d'eau largement répandus. Ils ne s'arrêtèrent pas lorsque la nuit fut venue. Peut-être les camions marchaient-ils plus lentement encore, cherchant leur route à travers le sable, grosses bêtes noires et aveugles. Les hommes ouvrirent des boîtes de rations. Ils mangeaient sans plaisir la viande sèche et, de peur des chaos, n'osaient pas toucher aux conserves de légumes. Enrobés de poussière, le fromage les étouffait. Ils auraient voulu boire, mais l'eau était sévèrement rationnée. « Là où vous irez, il n'y aura pas d'eau. » La phrase du commandant Gilboa hantait leur mémoire. Ils savaient que l'eau était plus précieuse que tout, que l'eau était leur vie. Qu'il fallait la conserver pieusement. Ils portaient leur gourde à leurs lèvres et ils laissaient couler une gorgée dans leur bouche, une gorgée qui avait goût de poussière, de fer, de moisi, mais qui était de l'eau tout de même, qui se déposait sur leur langue comme un baiser dont ils baignaient longuement leur gorge enflammée, qu'ils roulaient comme une perle et finissaient par avaler enfin à regret lentement. Presque tous songeaient à la façon goulue dont les arbres boivent l'eau dans le désert. C'est une lutte entre le sable et le soleil. Toute la terre aspire l'eau. Le soleil aspire l'eau aussi. Et en un instant, il n'y a plus qu'une tache sombre sur le sable. Mais l'eau s'est infiltrée le long des racines. Elle a couru par les pores de la terre, nourri et calmé la soif tenace de l'arbre, lui a donné la force de passer un jour encore, un jour sous le soleil, un jour dans le vent chaud qui souffle d'Égypte, ce vent qui rend les hommes fous et dessèche les arbres. Les camions s'arrêtaient, repartaient. Les hommes heurtaient les caisses de munitions et de rations, des aspérités sévères des armes qui veillaient dans l'ombre. Ils fermaient les yeux, essayant de se convaincre de dormir, de donner un rythme à cette marche incohérente et saccadée, de glisser leur corps à l'intérieur de ce cauchemar. La guerre, ce n'était pas le combat. C'était la poussière, les chaos, l'engourdissement, le claquement de la bâche du camion, l'odeur des camarades, les pieds qui gonflent dans les chaussures.
Henri Amouroux fut aussi l'auteur d'une pièce de théâtre. Sa première pièce s'intitule « Et ça leur faisait très mal ?» Point d'interrogation. Elle fut créée à Lyon en 1982 au Théâtre de la Tête d'Or avec Jacques Monod dans le rôle de Otto, l'un des tortionnaires allemands. Car avec ce titre-là, et ça leur faisait très mal, vous l'avez compris, c'est la torture qui est au cœur du débat. Henri Amouroux a imaginé pour sa pièce un plateau de télévision où l'animateur a invité sur le thème de la torture des personnalités concernées venant de plusieurs pays différents. Il avait rédigé pour le livre qui a été édité chez Robert Laffont un avant-propos et je vous propose d'écouter ce qu'il écrit.
Vivant pour mes livres d'histoire contemporaine et vivant depuis 24 ans déjà dans un monde qui est celui de la cruauté, de l'horreur justifiée, voilà peut-être le mot essentiel, justifié par le devoir militaire, l'enchaînement révolutionnaire du cycle attentat-représailles, la montée de tous les sadismes, j'ai écrit et ça leur faisait très mal, non pour témoigner contre un régime ou contre des hommes, mais pour montrer dans quels abîmes moraux les décisions des dirigeants, ceux-là même qui se serrent la main 5 mois ou 5 ans après la fin des hostilités, peuvent plonger les exécutants. Que cette pièce ait pour cadre un studio de télévision ne surprendra personne, j'imagine. Pourquoi la télévision ne convoquerait-elle pas pour un dossier 4 hommes ayant torturé, non par vocation, mais parce que les circonstances l'ont voulu ainsi? Mes personnages sont français, allemands, russes, américains. Ils auraient pu être vietnamiens, espagnols, algériens, tchèques. Israël, lui-même, terrible accusateur, se trouve parfois accusé. Quel est donc le peuple qui, à travers l'histoire, peut se dire totalement innocent de tout? Quel est le peuple qui peut affirmer qu'aucun de ses fils n'a torturé l'adversaire auquel il voulait arracher des secrets, dont la mort affreuse vengeait des camarades morts, ou qui était offert à des passions longtemps insoupçonnées, mais qui explosent lorsque la victime n'est plus qu'une chair et une âme abandonnée au mauvais plaisir du vainqueur. Il existe d'ailleurs d'autres blessures, d'autres tortures que celles infligées par le fonctionnaire ou par le soldat. Elles comptent, ces blessures. Elles comptent, ces blessures morales, qui souvent durent toute une vie, et ça aussi, ça fait très mal.
Cet avant-propos était donc rédigé par Henri Amouroux lui-même. Dans la pièce, l'un des personnages, cet Otto, justement, tente de se justifier. Il n'a pas donné l'ordre de torturer, il n'a fait qu'assister. Écoutez ce passage, il reflète évidemment les interrogations qu'Henri Amouroux voulait soulever avec son souci permanent de l'exactitude des faits. À la question qu'on lui pose sur ce qu'il éprouvait, Otto répond « des remords ».
Au début. Au début, je veux dire au début des jours sombres de notre défaite. Après la libération, au temps de notre humiliation. Peut-être pas vraiment des remords, mais des sommeils agités, des angoisses, des interrogations. Tous ces films, tous ces articles, tous ces questionnaires, tous ces procès. On nous faisait tellement honte de l'Allemagne. Abat-jour de peau humaine, faux sages juifs, femmes stérilisées, crématoires, dents arrachées aux morts. On nous jetait tout cela au visage. Je vous jure que je n'ai jamais eu d'abat-jour en peau sur mon bureau, que je n'ai jamais arraché une seule dent recouverte d'or. Atroce toute cette boue sur l'Allemagne. Nous n'avons pas eu de chance avec Hitler. Ceux qui avaient Staline étaient plus tranquilles. Staline, qui lui a reproché ces millions de morts bien à lui? Dire un mot contre Staline n'était-ce pas commettre le crime suprême d'anticommunisme? Pour ne pas être accusé d'anticommunisme, combien d'hommes ont su rester parfaitement silencieux? Mais nous, Allemands, pas de chance. Alors que les crimes de Staline et tous ces millions de morts accrochés à sa ceinture sont oubliés, et que vous pouvez à nouveau, vous, le Russe, commettre tous les crimes qu'il vous plaira, enfermer, ouvrir des procès truqués, tuer avec des mensonges avant de tuer avec le revolver, nous, pauvres Allemands, nous n'avons vraiment pas de chance. Et surtout pas de chance d'avoir attaqué les Juifs. À l'avenir, tout, mais pas les Juifs. Ils peuvent pas mourir en silence. Vous en tuez un au bout du monde et ça résonne à l'autre bout comme si vous en aviez tué 100 000. Depuis le début, c'est un peuple à histoire. Tout de même, un jour, j'ai réagi. Relevé la tête. J'ai vu qu'on réintégrait les anciens de la Waffen-SS dans leur grade. Que les acquittements se multipliaient, que mes camarades trouvaient du travail partout où il y avait besoin d'hommes d'expérience. Que l'Allemagne prêtait de l'argent au monde et qu'elle était devenue le plus puissant pays d'Europe. Qu'avions-nous fait pendant la guerre, sinon nous défendre? Les tortures, je vous le demande, avons-nous inventé les tortures?
Non, bien sûr, elles sont de toutes les époques, de tous les régimes.
Vous voyez, j'ai lu, je me suis renseigné. Il n'existe pas de peuple aux mains propres. Vous auriez pu inviter des citoyens de tous les pays du monde. Pourquoi nous et pas les Espagnols? Ah oui, pourquoi pas? Ici, il y a les soldats de Napoléon entre deux planches. Et pourquoi pas les Vietnamiens? Ils enfermaient leurs prisonniers dans des cages de bambou. Ils les laissaient crever de faim. Les soldats français prisonniers des Viet avaient moins de chances de revenir vivants que les déportés d'Auschwitz. Mais eux, qui en parle? Ce sont des morts oubliés, puisque ce sont des morts capitalistes. Les tortures des Viet n'étaient pas des tortures, n'est-ce pas? C'était de la rééducation.
Dans cette pièce, et ça leur faisait très mal, vous l'avez compris, on retrouve la réflexion d'Henri Amouroux qui, durant plus de 25 ans de sa vie, s'est penché avec fascination, mais aussi avec répulsion, en tout cas toujours avec lucidité et le courage de la vérité sur tous les drames nés de toutes les guerres. Nous aurions pu aussi vous faire découvrir d'autres aspects d'Henri Amouroux, l'amoureux du sport, par exemple, qui ne manquait jamais les grands matchs de tennis, de football, le Tour de France qu'il adorait, et aussi l'homme qui appréciait la musique, il travaillait toujours avec un fond musical dans son bureau, et l'homme tout court, celui qui se penchait sur son prochain, toujours attentif, curieux, passionné par l'être humain. Et l'homme de radio, et là je laisse la parole à Fernand Guillot qui l'a bien connu sous cet aspect.
Oui, il ne faut pas oublier qu'Henri Amouroux en 79 avait fait une émission qui s'intitulait « Henri Amouroux raconte les Français sous l'occupation ». De 94 à 99, il avait animé sur France Inter une chronique dominicale « Les jours les plus longs », puis « L'histoire à 50 ans », c'était tous les dimanches matins. Et enfin, il a été le co-auteur d'émissions dramatiques et historiques, notamment dans le cadre de « Questions pour l'histoire », chaque dimanche sur France Inter, et cela entre 1999 et 2007. Et il avait tour à tour pour partenaire dans ses émissions, Marcel Julien, Jean Favier, Jean-François Kiap, Jean Descartes. Je dois d'ailleurs vous signaler que quelques jours avant sa mort, on avait encore procédé à un enregistrement de Maria Callas à la conquête de la Scala, qui a été diffusé d'ailleurs au début septembre, mais il avait aussi bien d'autres sujets à son actif, comme la Royal Air Force gagne la bataille d'Angleterre, De Gaulle à Moscou, Torres à Paris, et De Gaulle sauve Strasbourg. Enfin voilà, Édouard VII abdique par amour. Je pourrais vous en citer beaucoup d'autres encore. Il avait même consacré une émission à l'affaire Marie Bénard. Et enfin, je me souviens de De Gaulle quitte le pouvoir et se retire à Colombey.
Ces émissions lui demandaient beaucoup, beaucoup de travail. Travail d'ailleurs de recherche qu'il effectuait à la bibliothèque du Sénat, où il était toujours accueilli par la conservatrice avec beaucoup, beaucoup de gentillesse. Pour terminer cet hommage, je vous propose d'écouter le début du chapitre d'un roman qu'Henri Amouroux avait projeté d'écrire et que nous ne lirons jamais. Ce sont donc des pages inédites que vous allez entendre. Vous serez les seuls à les connaître.
La vitre qui l'isolait des deux passagers glissa brusquement et Roger entendit la voix sèche du président du conseil. « Arrêtez-vous un peu plus loin, vers le petit bois. » « Il a envie de pisser, songea-t-il. » Et, après avoir d'un bref éclat de phare, des phares soigneusement camouflés, pour ne laisser passer qu'un ray de lumière, alerter les motards de l'escorte sur un changement d'allure, il coupa le moteur, après avoir dépassé les premiers arbres. La portière droite claqua. Il entendit Paul Reynaud s'éloigner. La vitre de communication était restée ouverte. Derrière lui, le général qui accompagnait Reynaud depuis le départ du ministère de la guerre 3 heures plus tôt, fouillait dans la poche de sa vareuse. Il en tira un paquet de cigarettes et au craquement de l'allumette succéda un léger bruit d'aspiration, puis le rejet d'une longue bouffée de fumée. Encore 2 ou 3 bouffées satisfaites, l'homme qu'une abstinence de quelques heures a irrité, puis ces mots « Vous êtes marié, sergent ?» Roger se demanda si c'était bien à lui que parlait ce général qui ne lui avait pas encore adressé la parole. « Non, mon général, fiancé, mon général. » Clarisse. Dans cette pagaille effroyable que les journaux appelaient l'Exode, où se trouvait-elle? La dernière fois qu'ils s'étaient rencontrés... Ah, fiancé, c'est le meilleur moment. Croyez-moi, sergent. Sur la banquette arrière, le général cherchait maintenant une position plus confortable. Roger l'entendit maugréer quelque chose qui ressemblait à « je leur avais toujours dit ». Puis vint cette interrogation déstabilisante. « Et la situation? Qu'en pensez-vous de la situation ?» Un général lui demandait à lui, le sergent Roger Morel, ce qu'il pensait de la situation. Il répondit avec toute la prudence nécessaire « Je n'ai pas d'opinion, mon général. » Derrière lui, la voix se fit ironique « Allez donc, seriez bien le premier Français à ne pas avoir d'opinion. » Le communiqué « Oh, vous y croyez, vous êtes bien le seul. Allons, sergent, votre avis. » Roger hésita un moment. Mais puisque ce général de Gaulle lui demandait son avis et qu'on était en somme entre militaires, il répondit crûment « Eh bien, mon général, je crois que c'est foutu. » Il ne fut pas étonné du silence qui suivit. N'avait-il pas été trop audacieux? Répondre à un général « c'est foutu », n'est-ce pas lui signifier qu'il a perdu la bataille? Mais puisque le général avait voulu connaître son opinion, il la donnait d'après sa courte expérience d'homme dont la mission consistait depuis quelques jours à véhiculer vers des secteurs du front, jamais les mêmes, mais toujours menacés, le plus souvent dans un désordre précurseur de retraite, des généraux qui revenaient de leur inspection en disant à d'autres généraux « c'est foutu ». Avec ce général, il aurait dû peut-être utiliser des mots moins rudes, du genre « cela paraît compromis », ou mieux « leur établissement sera difficile ». Mais après tout, comme il ne le reverrait jamais. Le général toussa, une toux sèche, un gros fumeur, songea Roger, qui eut la surprise d'entendre dans son dos une réponse qu'il n'attendait pas, « Oui, c'est foutu. » Le général toussa encore, « En métropole. » Mais il y a l'Angleterre, il y a l'Afrique, l'Empire, le grand large, sergent. Reynaud revenait. Il pénétra dans la voiture en toussant à plusieurs reprises, comme pour faire comprendre que la fumée l'incommodait. « La nuit est claire, il y aura des avions. » Puis il ajouta, « Vous avez raison, Pétain et Végan sont de mèche. »«
Vous l'avez toujours dit, » répliqua le général. « Mais c'est il y a 8 jours qu'il fallait me donner raison lorsque je vous ai proposé de prendre le commandement de ce qui nous restait de blindés. Alors tout aurait pu... »
Roger n'en entendit pas davantage. La vitre de communication venait d'être fermée. Le moteur tournait bien. Si les motards trouvaient des itinéraires relativement dégagés, ils seraient avant l'aube à Tours.
« Pétain, Végan !» Des hommes d'autrefois qui nous ont fait perdre la guerre alors que vous étiez le maître. Vous vous êtes abandonné à eux.
Mais, général, Verdun, vous ne me direz pas...
Verdun, j'y étais à Verdun, ça n'a rien à voir. La guerre d'aujourd'hui est une guerre nouvelle. Le pays saluerait avec espoir l'avènement d'un homme nouveau.
Un homme nouveau ? Demanda presque timidement le président du conseil. Vous en connaissez ? « Lorsque vous avez voulu que je renvoie Végan et que vous êtes allé trouver une cigare, celui-ci a refusé le poste. Et les responsabilités ? Un homme nouveau ? Les hommes d'autrefois me redoutent parce qu'ils savent que j'ai raison et que je possède le dynamisme pour leur forcer la main. Il est bien tard. »«
Je vous l'avais dit lorsqu'il était temps. Soyez Carnot. Carnot a fait Hoche, Marceau, Moreau. »«
Bien sûr, » pensa Roger. Carnot, l'organisateur de la victoire, et Hoche, Moreau, des cavaliers, des sabreurs. Son père avait une admiration particulière pour Moreau, l'homme de Hohenlinden, cette victoire dont Bonaparte était jaloux. En d'interminables monologues dominicaux, il ne cessait de regretter la jalousie du premier consul, puis de l'empereur, une jalousie qui avait conduit Moreau dans les rangs russes. Quelle idée de parler de Carnot, de Moreau et de Hoche dans cette nuit du 14 juin, alors que la France était entrée en guerre. Sans doute le général pensait-il à la jeunesse, à la fougue, au coup d'œil de ces jeunes généraux de la Révolution, alors que les généraux autrichiens et russes étaient des hommes d'autrefois.
« Ah, et voilà, soupira le président du Conseil, que l'Italie vient de nous déclarer la guerre.
Le coup de sabot de l'âne, c'était prévisible. » Mussolini veut sa part de gâteau. Les Allemands sont des maîtres intransigeants. Il le découvrira vite.
Croyez-vous que nous pourrons résister sur la Loire ?
J'ai donné des ordres pour que...
La vitre de communication fut brutalement fermée. Roger ne sut jamais quels ordres le général avait donnés.
Je rappellerai pour terminer qu'Henri Amouroux avait donné plusieurs interviews à Canal Académie, notamment sur son livre « Pour en finir avec Vichy », sur le débarquement du 6 juin 1944 et bien d'autres interviews que vous trouverez sur Canal Académie, dans notre médiathèque. Et vous y trouverez également l'enregistrement de sa communication devant ses confrères de l'Académie des sciences morales et politiques, intitulé « Les tribunaux du peuple à la libération ». Toutes ces émissions sur Canal Académie sont en libre téléchargement.